notamment sur son, on va dire son thème central, qui est celui de la danse de cette jeune fille, qui n'est jamais nommée dans le Nouveau Testament, mais que l'on a identifiée par la suite à la fille d'Hérodiade, qui avait une fille qui s'appelait Salomé, mais qui était probablement déjà mariée à l'époque, qui nous a fait lire Ali d'Arménie, et qui, comment imaginer qu'une personne de son rang ait pu rentrer dans une salle de banquet et danser comme le ferait une courtisane? Comment est-ce imaginable sur le point de vue historique? Qu'est-ce que cela veut dire? En pourquoi l'anniversaire d'Hérode représente-t-il une occasion favorable pour la mise à mort de Saint Jean-Baptiste? D'autre part, et enfin, on met en avant le manque de pertinence dans la christologie du point de vue de, on va dire, de l'intention théologique des évangélistes de ce récit. Quel sens cela a-t-il du point de vue de la bonne nouvelle chrétienne? Donc, on ne comprend même pas ce que ça fait là, quelque part. On dit, c'est une petite historielle sans importance. On ne voit pas. Il faut voir que
la robe est pas mal, elle va en chambre après, mais je me dis que il doit s'en être
Thank you.
چه پایین تر از مسیح قرار داشته و این جایگاه بالای از مسیح همیشه در این مقدس زیر شده این اصلا قرار این نفر نیستن و جایگاه یعنی هم به مرتب پایین‌تر از جایگاه مسیح است. با این تفاصیل رو خیلی مولا ببینیم که چرا ایران در شناخت ایران برای شناخت این وقت این داستان
Alors, interrogeons donc, commençons par interroger les éléments qui précipitent la mort de Jean. Et comme je suis anthropologue, nous allons commencer par nous, méthodologiquement, par nous baser sur les traditions de l'époque. Alors, Hérode, il n'est pas très juif, mais il est considéré comme un juif, il est idumée. Les juifs, quand il arrive au pouvoir, la famille des Hérodes considère que c'est une punition pour leur péché, mais bon... quand même. Alors, est-ce que les Juifs, pour les Juifs, fêter son anniversaire de naissance, c'est une abomination? C'est une fête de ce qu'ils appellent les gentils, c'est-à-dire des non-Juifs, et c'est véritablement quelque chose d'absolument interdit. Et là, on voit que les Hérodes, déjà, n'avaient pas trop bonne réputation, eux se sont véritablement romanisés, et on a des attestations. Là, on a peut-être un des seuls éléments historiques du récit. On a des attestations que dans la famille, il y avait coutume de fêter chez les Hérodes leur anniversaire de naissance. Ça, c'était une coutume romaine. Et pourquoi est-ce que cet anniversaire, le banquet d'anniversaire de la fête de naissance du roi, quelqu'un qui est présenté comme un roi dans le texte, est-il une occasion favorable pour déterminer la mort de Jean?
Yeah.
apprenons que pour les Perses, le jour le plus fêté par un, entre tous est celui de son anniversaire de naissance. Et que, a fortiori, si pour tout Perse, l'anniversaire est le jour le plus important, il le sera d'autant plus quand il s'agit de l'anniversaire de leur roi, qui prend la dimension de festivité nationale et qui est célébré avec des fêtes et des sacrifices. Et il nous raconte, il va nous raconter en détail ce qui s'est passé à l'occasion de l'anniversaire du roi de Xerxès. Chez les Perses, le jour du banquet royal, une demande ne soit pas satisfaite, bien à contre-cœur, il y consentit.
در واقع به هر دو روایت به نظر می‌رسد که هر دو روایت در این دماغ شدن در این دماغ
شواهدی هست به این کارهای روایت ها
Donc, nous avons là une demande contraignante qui s'exerce au cours du banquet d'anniversaire royal. Et certains diront, oui, mais le roi Hérode avait fait un serment, donc il était tenu par le serment et la loi des Juifs. Non. Même Flavius Joseph nous dit qu'à l'époque, il aurait pu être libéré de son serment en faisant appel à un rabbin ou à une assemblée de rabbins, et qu'un un serment qui impliquait un sacrifice humain était contraire aux mœurs à cette époque-là, et que donc il aurait pu être levé de façon très simple. Donc la loi juive ne peut pas être une référence et un rempart pour expliquer cette demande contraignante faite au cours du banquet. En revanche, cette tradition perse associée au banquet d'anniversaire royal permet de comprendre pourquoi le roi ne peut pas refuser et est obligé d'accéder à la demande de la jeune fille, et c'est même la seule raison qui explique pourquoi il est obligé de le faire, quelque part. Alors, pourquoi la Perse, pourquoi ce motif, ce thème viendrait faire une éruption dans le Nouveau Testament, et qu'est-ce qui aurait pu se passer? On va vous expliquer les lecteurs de transmission.
در مورد این درخواست شاید ناپسند یکی از پادشاه میشه توی این روایت ها کمبر که اینگر پادشاه قسم خورده بود و امکان رد به این درخواست به روی با دولت قسم خورده برای پادشاه وجود نداشت اما برخی دیگه میگن خب نه درخواستی که اینجوری تداخل قانونی میکردن و مرگ کسی دیگه ای رو از پادشاه داره امکانش وجود داشته که پادشاه به روی شاید رو نپذیره امکان رد برای پادشاه شاید معقول تونسته باشه توجیهی که در واقع برای این تناقض وجود داره اشاره ارجاعیست که به روایت یونانی و اهمیت جشن و ضیافت پادشاه و جایگاه پادشاه در اون روز و اینکه هیچ درخواستی رو وارد کنن امکان ردش براش نیست فکر میکنم که باشه در واقع این اهمیتی که روز برای پادشاه داره شاید دلیل اصلی این باشه که اون درخواست حتی قدم در مثل سخت و ایرقانی باشه برای پادشاه نفرش وجود داشته حالا میخوایم در مورد نقش اهمیت این رسم ایرانی رو در وجود اهمیت جنگ
Au-delà dire des influences culturelles, si nous restons toujours sur les textes, ce récit est aussi modelé à partir de modèles pris dans l'Ancien Testament. Et le modèle qui a été mis en avant tout de suite, notamment autour d'une reprise d'un calque concret de la fameuse formule « Demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai le serait-ce fût-ce jusqu'à la moitié de la roi de son royaume », est repris d'un rouleau, d'un livre qui appartient aux écrits dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le Livre d'Esther, et qui a lieu à Suse. Et qui, au cours, qui est une sorte de, on va dire, la fille d'Hérodiade apparaît véritablement comme une anti-Esther. Esther, au cours d'un banquet, va permettre de sauver le peuple juif grâce à son roi de mari. Salomé, au cours d'un banquet, va perdre un homme saint grâce à son à ce monarque qui est son neveu. Et donc, on a véritablement une importation directe, un calque biblique à partir du livre d'Esther. Or, nous parlions de Xerxès soit la peu. Là, avec Esther, nous nous retrouvons à Suse et Esther, quel est le nom de Marie d'Esther? Assuérus. L'Assuérus, c'est la forme latine du nom du roi de Xerxès. Donc nous voyons bien que nous retrouvons aussi là encore sur Xerxès. Mais pourquoi justement ce modèle et ces éléments iraniens interviennent-ils déjà dans l'Ancien Testament?
سوال این تبادلات فرهنگی که حالا منجر به تمام توضیحات شد که تا حالا دیگه میخوام در مورد نقد عهد عتیق شما اون جمله معروفی که هر چه می‌خوای رو به من بگو، حتی اگر نیمی از سرگرمی تا سفر من باشه من رو رو خواهم برم. بعد اشاره کنم به دیگه داستانه که در واقع نمود مستقیمی از این داستان درش وجود داره و مشخصا داستان اسیوریست که همون در واقع شاید به این نام یا تیم خشایارشاد باشه، اینکه مشخصا و اینقدر واضح اهمیت نقش عناصر ایرانی داستان جوشش میخوره و تا اونجا ببینید که چقدر ایران و شناخت ایران میتونه به روح در شناخت منابع مسیحیت مشخصا در مورد داستان
Les Juifs ont été déportés en 538 à Babylone par des Nabucodonosor en masse. Et, mais très peu de temps après, Nabucodonosor est vaincu par Cyrus, et donc les Juifs se retrouvent sous domination. Et Thomas Romain, professeur au Collège de France, remarquait que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Juifs sont, font partie d'une élection tout à fait particulière. Les Perses sont l'objet d'une élection tout à fait particulière de la part des Juifs. Il n'y a aucun domaine négatif les concernant, contrairement à tous les autres peuples. Et dans le livre d'Isaïe, Dieu qualifie même Cyrus, dit même de Cyrus qu'il est son berger et qu'il est son messie. Et là, ne voyez pas de référence à une quelconque fin du monde. Le messie, ça signifie simplement qu'il est son point. Qu'il a la fonction royale s'obtenait par onction également. Et après, ça a été transposé dans une vue liée aux théories des fins de l'avenir du monde et des eschatologiques. Là, ça veut simplement dire qu'il nous considère quelque part avec une légitimité royale. Nous ne voyons pas du messianisme partout. Et donc, juif, cette affinité entre juifs et iraniens se note véritablement à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Et l'influence iranienne sur les juifs a été si grande, dirons-nous, que...
در واقع داستان قوم یهود و اینکه در سامنه خیلی قدیم در بابل در مورد قتل و فشار و کلی از اعتراضات قرار گرفتن و اینکه سر اونجا به عنوان کوروش اسیر مال این فشارها در واقع قرار پیدا کنن و نکته جالب اینه در مورد یهود هیچ اشاره منفی به پادشاهان ایران و صدام ایران ایران باستان نشده و برعکس در مورد ترجمه شناسی همیشه اشاره مثبتی به نقش های ایرانی باستان شده.
En réalité, les traces archéologiques montrent bien que les Juifs sont restés beaucoup plus longtemps que nous le disent les livres d'Esdras et de Néhémie, qui sont des livres bibliques, à Babylone, et qu'ils ont même adopté l'araméen, qui est la langue administrative de l'Empire perse, et que cette influence de l'Iran se note même dans nom, l'adoption du nom du régime iranien, a commencé par un terme particulièrement fort qui est celui qui caractérise le temps, Zman, vous reconnaissez l'iranien Zaman, et qui, ou même, on va dire, celui du démon Asmodée, qui, derrière lequel on peut reconnaître l'expression avestique Ashma Daewa, qui signifie le démon du Kourou. Alors, la question des canaux d'influence de cet Iran ancien sur le judaïsme est encore assez difficile à définir à l'époque perse, mais avec le temps, elle finit par être très bien référencée, notamment à l'époque parthe. Donc c'est véritablement quelque chose qui va s'affirmer qui va devenir de plus en plus prépondérant.
Thank you. و حالت صحبت کردن یه الان شدن روی بابه و برای دوست ها بگی همه دارن خب بعد از اون داستان روشان رو تمام میشه و میگم یا از اونجا میرم و از اینکه خیلی بهتر میتونم باشه باشم آثار در واقع احباب دازنشنسی نشان که برای حالت سرگوز و واقع خیلی بیشتری یهودی ها در بابه و دیوان میشن و حتی زبانی رو که رست میکنن در درمای باستان و تمام این نشانه ها که صحبت شد در مورد اهمیت تاثیرات ایران بر یهود و با تلاش به این تمام هم مستقیم در مستقیم در ایران شد در برانه خیلی پادشی و تعالیت در زمان تاوتا هم در بودش شد.
Si donc les éléments iraniens dans l'Ancien Testament sont facile à repérer, à identifier, notamment tout ce qui concerne la mise en place d'une théorie des fins dernières du monde qui n'apparaît pas avant ce contact avec les Turcs. Toutefois, cette question du thème comme ça, de l'exemple de la récit de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui ne peut trouver de sens et n'être expliqué dans ses détails que par la mobilisation de traditions iraniennes, reste encore un champ véritablement qui doit être approfondi. On a d'autres exemples qui sont beaucoup plus, on va dire, marquants et qui concernent notamment la durée entre la mort du Christ, la mort de Jésus et sa résurrection, fixée à 3 jours, où on a tendance dans le Nouveau Testament à ramener ça à la figure de Jonas et au grand poisson. Il méprise lui-même, dit de même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, etc., etc., etc. Mais si on regarde les sources de l'iranologie, et je n'aurai pas le temps de m'avancer là-dessus, nous aurions véritablement une autre clé de lecture qui pourrait surgir jusqu'à nous. Et effectivement, on a le sentiment de lire un récit eschatologique de Perse, dirons-nous, quand on lit notamment le récit qui est fait dans l'Apocalypse autour de cette question de 3 jours autour de la résurrection. Donc, je vous laisse
اما مثال برای یکی بحث عالم تفاوت بود از جهت خوششناخت بود خیلی از افعال من بدون داشتن این دانش ایران شناسی شاید قابل درک یا شکل نباشه. مثال دیگه یه همشون دنیا هست مثل داستان این که بین مرگ از نصیب و عروجش 3 روز فاصله بوده و این یه بعض توی مثل 3 روز برشکنه و تمام اینها در باشد با کرده ایران شناسان اگر اتفاق بیده کامل خیلی بیشتری برای درک و شناخت این اتفاقات میکنه و این کنم
Je pense vu l'heure qu'il est et qu'il va y avoir des questions et réponses que je vais m'approcher d'une conclusion. Mais donc nous n'aurons pas le temps, mais peut-être pour une prochaine fois, d'envisager la chute du tafsir et toute cette question aussi de l'importance de la tradition orale et du remodelage de ces sources et donc du martyr conjoint de Jean et de Zacharie tel qu'il apparaît dans le tafsir. Je souhaite terminer en vous disant qu'il y a là véritablement un champ qui est encore grandement à défricher parce qu'il y a eu, on va dire, des habitudes culturelles de la part des biblistes occidentaux qui cohérent et la question qui reste véritablement qui est très perturbante quand on connaît les sources iraniennes, parce que quelque part on a le sentiment de lire un livre zoroastrien traduit, on va dire, reste encore véritablement à explorer et à défricher. Et j'espère vous avoir donné le goût pour certains de vous lancer dans ce défrichage. S'il y a des gens qui s'intéressent aux études néo-testamentaires, vous aurez le goût de vous y intéresser. Et sur ces paroles, je vous remercie de votre attention et de votre venue ici.
از این نظر اون یک مردم شناس معرفت در این کار کردن واقعا برای ما بسیار بسیار ارزشمند. و بعد صحبت این که گفتن که اینا ها ساعتون به زندگی خودشون یعنی تبلیشون رو گرفتن این کاملا درسته. من هم یکی از این مقابل هم که اشاره کردم که یکی از تبلیک های مهم ساعتیت چیز حساب روز تبلیم به این که خانم فرمودن که هرودوت گفته این کاملا درسته و ما چند بار به موضوع اشاره کردیم در خیلی جاها. مسئله بعدی که من بخوام گفتم اینه که خیلی هرودوت معمولا به موضوع اشاره داری که در ایران قربانی انسانی این اصلا در ایران وجود نداره. این از اون حرفاست که هرودوت تشبیه کرده ایران رو با احیانا مناطق دیگه یا روم یا یونان، چون اصلا در آیین‌ها و باورهای ایران نمی‌گنجه که یک انسان رو قربانی کنند. من خواستم این رو هم پایز رو درکنم بگم. و سوال بعدی راجع به این بود که اون متنی رو که ایشون در اول گفتم و بسیار بسیار جالب بود به نظر من اون تضمیه‌ای که گفتم، خواستم سوال کردم که اینو کی نوشته؟ آیا میتونیم بدونیم که کی نوشته؟
Alors, le manuscrit 1006 a été écrit à Shiraz.
À
Shiraz. Je crois que je n'ai pas le nom de l'auteur, ce sont vraiment des manuscrits. C'est Shiraz. Les autres, Bausani a tendance à les deux autres à les identifier vers Racine.
Racine.
Mais je n'ai pas noté, j'avais. Je n'ai pas noté, mais je peux vérifier, cher docteur à vos égards, dans le long article où Alessandro Bosoni dans toutes ses références, si jamais, mais il ne me semble pas, parce que j'aurais noté dans mes petites notes, s'il y avait eu un nom d'auteur. J'ai noté Racine, j'ai noté Shiraz, s'il y avait eu un nom d'auteur, je l'aurais noté aussi. Donc je ne suis pas sûre, mais je suis à peu près sûre aussi que ce n'était pas un chrétien. Oui, moi, ce texte. Merci beaucoup pour votre question.
Ariette, la ville de Normandie, la banane, c'est.
Bonjour. Je crois que monsieur aussi avait une.
Oui, le terme David, banane de Cédric.
Merci beaucoup. Alors, on attend la
suite. J'espère.
Courte question. La première, c'est que vous avez insisté à plusieurs reprises sur le fait que les orientalistes, les biblistes ne s'intéressaient pas à la connexion avec l'Iran ancien. Moi, j'ai un intérêt particulier pour les orientalistes du 19e siècle. Et je voulais savoir comment c'était possible, mais pourquoi, avec l'intérêt qu'il y avait pour l'Iran à cette époque, et puis un Iran, à la fois l'Iran ancien et l'Iran islamique, c'est la définition de l'orientalisme, on s'intéressait à toutes les périodes. Comment ça se faisait, à votre avis, si vous avez raison
Parce que pour les études de biblique, ça concerne les sources, on va dire, du zoroastrisme, et que les linguistes se sont plutôt préoccupés des liens entre l'Inde et l'Iran d'un point de vue linguistique, et des connexions entre l'Inde et l'Iran. D'autre part, très clairement, parce que les chrétiens ont eu du mal, justement, à ce moment-là, à voir une telle paternité, on va dire, derrière eux. Déjà, Jésus juif, voilà. Mais alors, le zoroastrisme derrière tout ça, pour eux, ça leur posait quand même des petits problèmes. Donc ça a été véritablement très longtemps refoulé, c'est encore très discuté, on ne sait pas pourquoi. Il y a ces habitudes culturelles aussi qui sont là, où on est tellement dans l'instauration d'un dialogue helléno-judaïque qu'on oublie même que des parties entières du livre de Daniel sont rédigées en araméen, ou si on se rend compte qu'elles sont rédigées en araméen et que... On oublie que l'araméen, les juifs l'ont récupéré justement du fait de l'exil à Babylone. Et que quand après la traduction des Talmud, c'est-à-dire de la Bible en araméen, ça arrive tard justement parce que l'hébreu n'était plus la langue et qu'il ne comprenait plus et qu'il fallait justement. Cette traduction était nécessaire pour que la Bible soit lue de tout le monde. Voilà. Et je trouve ça tellement dommage, et effectivement, j'ai utilisé aussi un article que je citais partiellement ici, qui s'appelle « Temps et eschatologie », où je ne disais rien de rien de terrible, parce que pour moi, c'est partir d'un certain nombre de choses d'acquis. Les Juifs sont conscients plutôt de cette filiation, les non-Juifs, moins. Et effectivement, il a fallu qu'on me demande, après l'expertise de l'article, de prouver par une longue note tous les gens qui ont pu s'intéresser à ça. Parce que pour eux, ça leur semblait complètement... Encore maintenant, l'article date de 2013, 2014, il y a 5 ans.
سوال کردن آقا در مورد اینکه چرا شهرشناسان و کسایی که تحقیقاتی در مورد این چی انجام دادن علاقه ای در این مطرح شده بود و علاقه ای به شناخت ایران شاید ندارن در تحقیقاتشون و پاسخ خانم هم این بود که حالا به نوعی مسیحیان شاید خیلی علاقه نده به قبول این شباهت ها با زرتشتیان نیستن کما اینکه برخلاف اونها زبانشناسان بود که همیت رو واقعا و اینکه زبان‌های هندوروپایی و حالا توی تحلیل‌های خودشون ولی خب و میگن خب خیلی حیفه و در مقاله‌ای که داشتن با من زمان و فرد رامشناسی که قابل دست مطرم هست در باشد به نوعی به این ارتباطات اشاره کردن و که یهودیان برخلاف مسیحیان قبول دارن این ارتباط رو و این شباهت ها رو ولی خب غیر یهود خیلی شاید نمی‌پسندیده کنشه با آنی
Alors j'ai une question. La première, c'est vous avez mentionné la secte des partisans de Saint Jean-Baptiste. Et je voulais savoir s'ils avaient des écrits de propagande équivalents de diffusion, équivalents aux évangiles canoniques. Et si oui, quel est le titre hein, comment ça s'appelle,
alors,
quel est le titre, ça date, et vous avez expliqué qu'ils avaient. En dehors de ces textes, s'ils existent, vous pouvez les parler.
Si vous lisez l'italien, vous pouvez les avoir tout de suite. Si vous lisez le mondéen, c'est mieux, mais moi je ne le lis pas. Si vous lisez l'italien, je peux vous dire qui a édité tout ça.
Et la deuxième question, c'est, outre ces textes-là, vous avez parlé de Hérodote, du livre d'Esther, des évangiles canoniques. Est-ce que vous pouvez rappeler la chronologie d'écriture de ces différents textes pour que ce soit plus clair?
D'accord. Alors, les textes des mondéens ont été édités. Le grand chercheur italien qui a travaillé là-dessus, c'est Edmondo Ruppieri, qui a fait véritablement un gros travail grâce auquel moi-même je n'ai pas travaillé sur les mondéens, mais ça m'intéressait. J'ai pu accéder, on va dire, à un certain nombre de textes. Il y a une de nos collègues aussi, dont le nom est échappé complètement, Ursula Schaffner, qui a beaucoup travaillé à l'EPHE sur les textes des mondéens. Vous avez apparemment aussi à l'université de Téhéran un spécialiste des mondéens qui s'appelle Merdad Arabestani. Qui est là. Donc je vous en dira encore plus que moi. Merci d'être venu. C'est un plaisir de vous voir avant le 28 octobre. Et vous avez aussi des gens, vous avez des collègues qui travaillent à l'université d'Ashfaz sur les mondéens. Et vous avez des mondéens aussi aux alentours d'Ashfaz, m'a-t-on dit.
Arbaz,
pardon. Darbaz. Donc voilà, je laisse. Plus compétent que moi pour répondre sur ces questions et les questions de sens que vous avez. Du point de vue de la chronologie, alors la question de la chronologie du texte biblique, c'est toujours quelque chose de très discuté, mais les évangiles canoniques, 1er siècle de l'ère chrétienne, le livre d'Esther, ça fait partie des écrits. Je ne sais pas de quand la dernière rédaction remonte, mais c'est forcément avant la chrétienne. Et quel était le dernier texte ?
Isaïe, peut-être.
L'Étasier, c'est 19e, 20e, enfin 19e.
Hérodote.
Ah, Hérodote, 5e siècle avant Jésus-Christ.
Les évangiles canoniques, il me semblait que les traces archéologiques les plus anciennes qu'on en a à l'écrit.
Ah non, mais je ne parle pas des manuscrits.
Ah,
Ah non, parce que alors là, si on part sur les manuscrits, là, les manuscrits, on ne les a pas du 1er siècle. Hein. Mais par contre, il y a quand même des philologues qui sont capables de vous dire que tel ou tel texte ont été écrits à peu près vers telle période et on est à peu près assuré. Il y a une grande discussion pour savoir est-ce que les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers évangiles, ont été écrits avant ou après la deuxième destruction du temple de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui vous disent après, moi je vais vous dire avant. On va dire les antiquités judaïques vers la fin du 1er siècle.
Environ au moment où je suis. Sur la chaîne d'Avril, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps.
چون که وقتی کم بود به باید سابق مثلا اگر اجازه میدونم دو سه تا سوال میپرسم از شما این دو دسته را میگیرم و اجازه میدم که خانم میکرودین گوتی به همین صورتی که خودش روز داره جواب بدید که شما جواب بدهد فکرم شما سوال داشتید اگر شما رو میگم درست
من خواستم بگم که شباهتی بین داستان یحیی و داستان سیدی سیاوش هست که سیاوش هم به همین شکل کشته میشه و سرش بریده میشه در قشت طلا و نتیجه یک انتقام عشقیه و داستان یحیام نتیجه یک انتقام عشقی در واقع که ایشون اصلا اشاره بهش نکردن که زن پادشاه عاشق یحیا بوده و از او بوسه میخواسته به یحیا و زن نمیشه بوسه او بده و اون خواهان بریدن سر یحیا میشه من خواستم که این شباهتی که بین این دو افسانه ایرانی و
Oui, mais je ne connais pas par cœur.
Ouais.
Il s'agit
en fait d'une vengeance.
Ah, d'accord. Il faudrait que je me replonge dans le livre des rois, dans ce récit du livre des rois.
Je vais prendre une ou deux autres questions.
Je dois relire le livre des rois, malheureusement,
pour
pouvoir vous répondre. Je suis en train de faire
Une soirée de frappe. Ça va les Français.
Oui.
Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai pas fait le point. Alors, le mot suisse s'intéresse à savoir en fait, la différence qui existe entre l'histoire, à la vengeance d'ordre romantique qui existe entre, enfin, dans l'une des histoires où des livres des rois, hein, vous connaissez jamais le livre des rois, donc l'un des personnages qui s'appelle Siavache, le gars il est tué parce que là il y avait une demande romantique. Et donc il cherche la ressemblance. Et Nadal en fait, il a besoin de encore en fait, étudier une nouvelle voie auprès
de lui. Et qu'a répondu le docteur Jenner Moussegar?
Vous voulez
exprimer le fait de ne pas anticiper sur l'aspect politique de l'arrivée des Messies par rapport à quel moment dans les textes que vous avez évoqué cette dimension apparaît. Et si elle avait quelque chose à voir avec...
À partir des textes exiliques, c'est-à-dire à partir des Haïts. Mais alors, le grand livre, effectivement, prophétique et eschatologique de l'Ancien Testament, c'est quand même Daniel, effectivement, comme je vous disais, qui est en partie rédigé en araméen. Et c'est très... et alors, j'aurais pu parler aussi d'une conception du temps qui se change complètement, parce que on retrouve à la fin de Daniel cette expression Ketsayamin, qui veut dire la fin des temps, et qu'on a dans la Genèse, mais avec l'expression Ketsayamin, et qui désigne simplement la fin d'une période de temps, et là on a un pluriel régulier hébreu Yamim, Yamin étant le pluriel araméen, et qui là, l'expression est clairement d'ordre eschatologique. Donc on voit bien ce lien entre l'adoption de l'araméen et l'irruption d'une nouvelle conception du temps, tout simplement, qui est de caractère eschatologique, où le temps devient véritablement le médium d'une histoire sacrée qui doit aboutir à la fin des temps et à l'instauration d'un royaume divin sur Terre, qui est là. L'Ancien Testament s'écrit en... Le Nouveau Testament, il y a les sources qu'il récupère directement, et encore pas directement, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de théorie messianique ou eschatologique fixe dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a pris des sources disparates qu'elle a organisées en un système, mais qui n'est pas du tout organisé au stade de l'Ancien Testament, qui n'est même pas d'ailleurs un peu ultérieur dans le Talmud, donc on a des choses assez divergentes. Mais il reste de vrais mystères par rapport à des choses qui, justement, comme ça, arrivent et dont on ne peut pas dire que tout vient des Esséniens, comme certains ont les croient, parce qu'on a retrouvé quand même dans les manuscrits esséniens des mots, et ça a été mis en évidence, qui ne pouvaient se comprendre que si on les lisait en Pélévie. Et avec des thèmes clairement zoroastriens sur le pont de l'abîme, qui est le pont
le
Chimbal. Mais j'étais en train d'expliquer au monsieur qui ne sait pas forcément ce que c'est que le Chimbal. Et voilà, le pont que toute âme doit traverser à l'aube du quatrième jour après sa mort pour aller dans l'au-delà. Et qui va devenir très étroit si on est un pêcheur, et très très large si on est un traître.
Situé finalement sur cette transition d'Iran vers les textes des Jésus.
Il n'y a pas une transition, on ne peut pas dire qu'ils l'ont adopté. Il y a eu une influence, il y a des thèmes qui ont circulé, mais qui ont été après adaptés au système. Ce n'est pas une transposition. On ne peut pas dire qu'on prend l'Avesta, on a toute la théologie de la fin dernière du monde, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ce serait ridicule. Déjà, le mot Messie, et ça a posé de gros problèmes. Ça a posé de gros problèmes parce qu'il y a eu aussi cette question de la lecture judéo-chrétienne des sources de l'iranologie ancienne qui nous a donné quelque chose d'absolument fantasmagorique aussi. Donc, il n'y a pas de Messie dans le zoroastrisme. Il y a un Saoshiant. Il y a les trois sachantes, mais il n'y a pas ce caractère de d'onction du tout. C'est celui qui va gonfler.
C'est ce qu'il y a des vierges.
Oui, il y a les vierges.
C'est la vierge
qui est dans l'Isaïe, qui est dans, et qui est dans le judaïsme aussi.
Oui, c'est monsieur Xavier. رزومه ست اشاره
فقط بهتون بگم که سوال آقا در مورد بحث فرجام شناسی در مورد سوال ایشون در مورد بحث فرجام شناسی و سوال آقا در مورد بحث فرجام شناسی و خوشی بود و خود خاصون خود خیلی سنگی که خواهم دادن و اینکه بالاخره در موجود زرکاش مثلا به روی صحبتش را بزنید منشه هم نشه و
مثلا یه باکر است که باکره مریمی که باکر است به این سه تا چیزی که در دوری زرگیش دو نام باکره هستن که صاحب فرزند
میشه. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes donc conviés au quatrième étage où quelques rafraîchissements nous attendent. Très bien.